Ainsi, l'affirmation philosophique sur Dieu consiste-t-elle à dire, avec le pseudo de Nice, qu'il est tout ce qui est, c'est-à-dire qu'il possède en lui de façon éminente la valeur de tout ce qui est. On peut remarquer à ce sujet que nous avons souvent tendance à identifier Dieu avec tel aspect de la réalité. C'est ainsi que Platon range Dieu du côté de l'esprit, par opposition au monde de la matière. Or, ceci est ambigu, car s'il est vrai que Dieu est esprit, il reste que le monde des corps ne lui est pas étranger. Mais il possède en lui de façon éminente et ce qui fait la valeur de l'esprit et ce qui fait la valeur de la matière. Le christianisme n'est pas un spiritualisme au sens platonicien du mot, qui identifie le divin avec la sphère de l'esprit. Mais le christianisme comporte aussi un aspect matérialiste, et ceci est de grandes conséquences pratiques, car c'est pour ne l'avoir pas assez montré que les chrétiens ont pu donner l'impression aux hommes qui ont davantage à faire avec la matière et qui en admirent les virtualités, qu'ils leur étaient étrangers. On peut faire la même remarque pour d'autres notions. Nous disons couramment que Dieu est immuable, et nous avons raison. Nous voulons par là marquer que Dieu est totalement étranger aux vicissitudes du devenir, au changement et à l'évolution. Mais ceci risque de donner l'impression que Dieu est du côté de l'immobilisme, de la sécurité, et qu'il est opposé à l'invention, à la création ou au mouvement. Or, s'il y a une perfection dans le repos, il y a aussi une perfection dans le mouvement. Si au niveau humain le mouvement est l'expression d'une indigence, et donc indigne de Dieu, ceci en représente seulement une déficience. Mais en Dieu, le mouvement existe dans sa valeur éminente, en tant qu'acte pur, intensité de vie, opération immanente. C'est là ce qu'avait bien vu Bergson quand il opposait le devenir du temps à l'activité immanente de l'esprit dans la pure durée. Ici encore, le pseudo-Denis a exprimé avec une audace admirable cette universelle analogie. Il montre qu'il est faux de dire que Dieu est grand si l'on n'ajoute pas qu'il est petit, car il y a une perfection dans la petitesse comme il y en a une dans la grandeur. Et Dieu possède l'une aussi bien que l'autre. Il n'est pas du côté de la grandeur, et il est aussi proche de ce qui est petit que de ce qui est grand. Les Écritures célèbrent Dieu comme grand et sous le mode de la grandeur, et elles parlent aussi pourtant de cette petitesse divine qui se manifeste dans un souffle léger. De même, s'il est vrai que Dieu possède la perfection de ce qui est identique, il possède aussi celle de l'activité. Il est stable et immobile, demeurant toujours sur le même siège, et pourtant mobile, puisqu'il se répand à travers toute chose. Tout ceci revient précisément à dire qu'il n'y a aucune réalité qui ne surexiste en Dieu de façon éminente, suffisante et transcendante. Elle surexiste en Dieu de façon éminente dans la mesure où tout ce qu'il y a de perfection en elle est une participation de Dieu, sans les limitations qui sont celles de l'être créé. Et ainsi, ce que nous aimons en toute créature n'est qu'un reflet de lui. Le monde tout entier et l'âme et les anges sont un livre qui nous parle de Dieu et qui éveille en nous une soif que Dieu seul peut combler, car il ne peut nous donner la plénitude de ce dont il éveille en nous le désir. Si le monde ne parlait pas tant de vous, a écrit Claudel, mon ennui ne serait pas tel. La messe là-bas, page 17. C'est cette quête de Dieu à travers les créatures qui ne sont que son reflet que nous décrivent les confessions de saint Augustin. « Ô beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t'ai aimé, tu étais au-dedans de moi et moi j'étais hors de moi. Et c'est là que je te cherchais, je me répandais dans tes ouvrages et je me flétrissais au contact de leur beauté, et ces choses me retenaient loin de toi, elles qui ne seraient pas si elles n'étaient avec toi. » Confession, chapitre 10. Mais non seulement tout être existe éminemment en Dieu, mais il y existe de façon suffisante, c'est-à-dire dans une absolue plénitude qui en épuise les possibilités. Platon avait déjà bien vu ce caractère de l'être divin quand il disait qu'il était sans besoin, c'est-à-dire qu'il se suffit absolument à lui-même, puisqu'il exprime en lui la plénitude de ce qui est. Il ne peut donc rien recevoir, il ne se tient que de lui-même. Et c'est là cette aséité qui le distingue radicalement de la créature, dont l'essence est de se recevoir d'un autre. Et de même, sa volonté se complaît pleinement et s'achève en lui-même dans la possession parfaite de sa plénitude. Ainsi, celui qui le possède, possède tout en lui. Comme le disait Catherine de Gênes, je cite, « Celui qui désire quelque chose perd ce qu'il désire, à savoir Dieu, qui est toute chose. » Mais il faut ajouter que tout ceci existe en Dieu de façon transcendante. C'est-à-dire qu'après avoir affirmé qu'il possède l'être de toute chose, il faut le nier, car cet être, Dieu le possède d'une façon absolument autre que celle dans laquelle il existe dans les choses créées. Et elle nous est totalement inconcevable, nous pouvons seulement l'affirmer. Il n'est pas l'être de tout, il est l'être qui est au-delà de tout, non par essence, mais sur essence, selon le mot cher au pseudo de Nice. Et, je cite, « L'inconnaissance de cette suressentialité qui dépasse raison, pensée et essence, tel doit être l'objet de la science suressentielle. » Fin de citation. Mais cette science suressentielle n'est plus la philosophie. Seule la foi, qui est participation à la connaissance dont Dieu se connaît lui-même, pénètre dans cette ténèbre et connaît Dieu non seulement comme celui qui est tout, mais qui est transcendant à tout, non seulement le même, mais le tout autre, non pas autre que l'amour, pour reprendre le mot du père de Lubac, mais pourtant un autre amour. Ainsi, finalement, ce que la philosophie peut affirmer de Dieu, c'est qu'il est l'être par éminence en qui s'épuise la réalité de toute chose. Mais cette affirmation même va être la source de ce qu'on peut appeler la difficulté fondamentale de la philosophie, et que nulle philosophie n'a pu entièrement surmonter sans la lumière de la révélation. Et cette difficulté est que, si Dieu épuise en lui la réalité, on ne voit pas comment peut exister et comment existe en fait autre chose que lui. Ainsi, il semblerait apparemment que le paradoxe de la philosophie est qu'elle est prise dans une alternative. Ou bien elle est une affirmation de la suffisance de la raison elle-même et une négation de Dieu, ou bien elle est une affirmation de la suffisance de Dieu à lui-même et une négation de l'homme. Mais la possibilité de la coexistence de Dieu et d'autres choses apparaît comme insoutenable. Ceci nous ramène au problème de la création, que nous devons en reprendre plus en profondeur. La difficulté a commencé avec la philosophie. On peut dire qu'elle est le problème philosophique lui-même. La pensée antique y a répondu de deux façons inverses. Pour Parménide, d'une part, l'un seul existe et toute multiplicité est illusoire. Ainsi, Dieu est affirmé et le monde nié. C'est ce qu'on nomme l'acosmisme. Dans la tradition indienne, ce sera la doctrine de Sankara, qui pousse le monisme indien dans le sens de la négation du monde. Rien n'a jamais existé que Dieu seul. Le reste est un rêve éveillé et la philosophie est le réveil. En face de l'acosmisme, l'Antiquité nous offre l'autre solution, celle du panthéisme, mais qui n'en est finalement qu'une expression moins rigoureuse. Ici encore, la création n'existe pas, n'a pas une consistance propre. Elle est le déploiement de l'unité, ou en d'autres termes, l'être qui est un et qui est Dieu existe sous un mode recueilli, qui est Dieu, et sous un mode déployé, qui est le monde. Mais il suffit que l'homme se recueille pour passer du divin qui est en toute chose au divin qui est en lui. Le rythme de la vie de l'homme est ainsi identique au rythme cosmique, qui est lui aussi expansion et recueillement. C'est ce panthéisme que Spinoza exprimera en Occident. Le XIXe siècle posera la question de façon différente. Le développement de l'idée de progrès amènera à valoriser le devenir et à lui donner un sens positif. La réalité est un surgissement perpétuel de nouveautés créatrices. Or, ceci apparaît annulé et le progrès dépourvu de toute valeur créatrice dans la mesure où toutes choses ont surexisté éminemment en Dieu. Le progrès ne fait plus alors que redécouvrir ce qui a toujours été connu, que produire ce qui a toujours existé. La préexistence de Dieu paraît le vider de tout son contenu et acculer nécessairement à une philosophie de l'éternel, qui est la négation de la valeur du temps. Aussi, le panthéisme moderne, renversant les perspectives, fait de Dieu non celui qui a toujours existé, mais celui qui n'existe pas encore. Dieu, l'esprit absolu de Hegel, est le terme de l'histoire. Celle-ci est une théogénèse. On peut dire que ceci constitue la philosophie du XIXe siècle. Hegel lui a donné une expression idéaliste, Strauss l'appliquera à l'histoire des religions. Devenue matérialiste chez Marx, elle y garde cependant un fond religieux, l'idée de l'homme démiurge, d'une humanité Dieu. Teilhard de Chardin s'efforcera d'en donner une version acceptable pour les chrétiens, mais n'y réussira qu'en partie. On peut se rendre compte à quel point elle déborde les systèmes philosophiques et a marqué la structure de l'esprit moderne en lisant ces lignes de Rilke. Je cite « Pourquoi ne pas prouver que Dieu est celui qui viendra, qui de toute éternité doit venir, qu'il est le futur, le fruit accompli d'un arbre dont nous sommes les feuilles ? Ne croyez-vous pas que tout ce qui arrive est un commencement ? Ne serait-ce pas son commencement à lui ? Quel sens aurait notre poursuite si celui que nous cherchons appartenait déjà au passé ? » Fin de citation. Lettre à un jeune poète, page 67-69. Dans la philosophie contemporaine, cette difficulté fondamentale a reçu une expression nouvelle chez Sartre et chez Merleau-Ponty. Sartre, élaborant métaphysiquement le thème nietzschéen de la mort de Dieu comme condition de l'existence de l'homme, montre dans la préface de son Descartes que l'existence étant identique à la liberté créatrice, l'homme n'existe que si son acte libre est un commencement absolu et si aucune essence ne précède l'existence. Et, dans sa pièce Les Mouches, il illustre le thème sur un plan dramatique. Oreste n'existe que lorsqu'il a tué Agamemnon. Merleau-Ponty, à son tour, critique le christianisme de transcendance et lui oppose ce qu'il appelle un christianisme d'incarnation, où Dieu devient homme, non au sens chrétien du mot, en restant Dieu, mais en s'identifiant à lui. L'existence d'un Dieu distinct de l'homme lui paraît incompatible avec l'existence de celui-ci, car l'homme devient alors objet pour Dieu, et cela l'anéantit. Il faut donc que Dieu existe et que l'homme n'existe pas, ou bien que l'homme existe et que Dieu n'existe pas. L'existentialisme de Sartre et de Merleau-Ponty tranche la difficulté dans le sens de l'affirmation de l'homme et de la négation de Dieu. Il a son exacte contrepartie dans la théologie de Karl Barth, qui renouvelle l'acosmisme de Parménide et de Sankara, reprenant le solus deus de Luther. Il dénonce toutes les prétentions de la liberté humaine qui lui paraissent attentatoires à la souveraineté absolue de la liberté divine. Tout ce que Dieu lui-même n'opère pas dans l'homme est néant. Il n'y a de connaissance de Dieu que celle que Dieu opère dans l'esprit, et toute prétention à une connaissance philosophique de Dieu est idolâtrie et illusion. Il n'y a de vertu que celle que la grâce de Dieu opère dans l'homme, et toute idée de mérite, de coopération de l'homme à son salut est orgueil. Le salut éternel lui-même est l'œuvre de Dieu seul. L'homme paraît à Barth trop dérisoire pour qu'il soit capable même de se damner, et son prédestinationnisme aboutit paradoxalement à une doctrine de salut universel. Aussi, l'homme est dépouillé de la dernière chose qu'il pensait encore pouvoir s'approprier et soustraire à la toute-puissance divine, et qui est l'enfer. Car, comme l'a bien vu Jouhandeau, l'enfer est l'ultime expression de la valeur de la liberté humaine. Le nier, c'est dire ou que la liberté est incapable de résister à la grâce efficace, ou que le péché est finalement si dérisoire qu'il ne mérite pas même d'être puni. Cette allusion à Barth attire notre attention sur l'aspect le plus frappant de la difficulté fondamentale, qui est celui de la coexistence de la puissance absolue de Dieu et de la liberté humaine. Mais ce problème n'est qu'un aspect de la même difficulté, qu'il s'agisse de l'être de Dieu et de celui de la créature, de la puissance de Dieu et de la liberté humaine, nous sommes toujours ramenés à cette même difficulté. Car si Dieu est tout, fait tout, dit tout, où y a-t-il place encore pour autre chose que lui ? Métaphysiquement, on voit difficilement comment en justifier l'existence. On aboutit à une contradiction qui paraît insoluble. Psychologiquement, la vie humaine apparaît comme vidée de toute saveur et l'homme se sent frustré, dépossédé et désapproprié. Et pourtant, ce qui apparaît comme une difficulté fondamentale est la marque même que nous sommes dans la bonne voie, car nous sommes en fait ramenés au principe que nous avons posé au début. Ce qui caractérise en effet le problème de Dieu, disions-nous, c'est qu'il est un problème limite, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être maîtrisé par la raison. Et c'est précisément par là que la réalité de Dieu s'impose dans ce qui le constitue spécifiquement, c'est-à-dire dans le fait qu'il transcende la raison. Or, c'est là, précisément, ce à quoi nous conduit l'examen de la difficulté fondamentale. Nous sommes amenés à poser deux affirmations qui sont en apparence inconciliables. D'une part, tout l'être s'épuise en Dieu, de l'autre, il existe de l'être en dehors de Dieu. Ou encore, Dieu détermine toute chose, et cependant la liberté humaine se détermine elle-même. Nous sommes ici en présence d'une fissure, d'une impossibilité de faire coïncider les deux affirmations, et elles sont pourtant toutes deux nécessaires. Aussi, l'erreur de toutes les réponses que nous avons apportées à ce problème est précisément qu'elles ne supportent pas d'accepter cette opposition et qu'elles éliminent une des données du problème. Elles reviennent toutes, finalement, à une prétention de la raison à dominer la difficulté, et ceci est vrai aussi de la position de Barthes, qui revient finalement à celle de Parménide, et qui est une prise de position philosophique contre l'analogie. La théologie catholique s'est efforcée aussi de surmonter le problème. On sait combien la question de la grâce et de la liberté a tenu de place dans son histoire. Mais finalement, ces tentatives ont abouti à un échec. Ni Banèze ni Molina n'ont apporté une solution qui s'impose. Et c'est la marque même que c'est bien le mystère de Dieu que nous touchons ici, dans son irréductibilité à une intelligibilité totale par l'esprit créé, dans la radicale indépendance de sa subjectivité souveraine. Mais il y a plus. Ce qui caractérise les problèmes limites, c'est non seulement qu'ils ne peuvent être élucidés par la raison, mais qu'ils obligent à sortir de l'ordre du discours, qu'ils constituent une mise en question de l'esprit lui-même sur le plan de l'existence, et qu'ils obligent à une conversion. Or, ceci est éminemment vrai de celui que nous envisageons. Quand Sartre ou Merleau-Ponty disent que l'existence de Dieu néantise l'homme, ils expriment quelque chose de parfaitement réel. Dans la mesure où elle signifie que Dieu est tout l'être et que tout être vient de Dieu, elle veut dire que l'homme ne possède rien de lui-même. Ou plutôt la seule chose qui lui soit propre est le néant. Car c'est seulement l'action de Dieu qui le suscite à chaque instant du néant. Jacques Rivière le sentait bien quand il disait à propos du péché « Ceci du moins est bien à moi ». Il exprimait ainsi cette vérité fondamentale que toute bonté procède de Dieu, ainsi que tout bonheur. Ce que Dieu demande de nous, c'est de nous laisser aimer par lui, d'accepter de recevoir de lui l'être et le bien. Mais c'est ceci que l'homme refuse, car cette acceptation est un aveu de sa totale indigence. Elle le dépossède de tout. Or, la passion de l'homme est de s'appartenir. Il répugne à reconnaître sa totale dépendance, à accepter de se recevoir à chaque instant totalement d'un autre, de laisser à Dieu la totale initiative, de ne pouvoir qu'adhérer à quelque chose qui existe avant lui et hors de lui, bien que ceci soit plus lui-même que lui. Et c'est pourquoi, quand sa perspicacité métaphysique lui fait reconnaître que tout bien vient de Dieu, il se complaît dans son péché. Que tout bonheur vient de Dieu, il se complaît dans le malheur. Que tout être vient de Dieu, il se complaît dans le néant. Car c'est la seule manière pour lui de se refuser à Dieu. Si tout ce qui est vient de lui, et qu'accepter d'être est confesser sa dépendance. Mais le fait que l'être que je possède ne m'appartienne pas, mais soit reçu d'un autre, ne signifie pas pour autant que cet être n'existe pas. Telle est précisément la condition de l'être créé. Il n'a en lui aucune nécessité, il est parfaitement contingent, il n'apporte rien de nouveau. Et en ce sens, il est totalement gratuit. Ou mieux, totalement grâce. Je ne suis pas mon origine. Dès que j'existe, nous sommes deux. Mon existence est dans son essence même relation. Je ne subsiste qu'en tant que je suis proféré par un autre. Reconnaître cette dépendance radicale, c'est simplement ratifier ce que je suis. Je n'existe qu'en tant que je suis aimé. Et exister pour moi sera aimer à mon tour. Répondre par l'action de grâce à la grâce. Ainsi, l'être créé n'est pas dépossédé de l'existence, comme le dit Sartre, mais de l'appropriation de l'existence. Ce dont je suis dépossédé, c'est de ma volonté de suffisance. Dès l'origine, je suis introduit dans le cycle de l'amour, de la grâce et de l'action de grâce. Il m'est impossible de me séparer. J'entre alors dans la religion de la dissemblance, selon le mot de saint Bernard, c'est-à-dire du non-être. Par un paradoxe remarquable, c'est dans la mesure où je veux me suffire que je me détruis. Tandis que lorsque je reconnais mon insuffisance, je m'affirme. La notion même de créature, qui est corrélative de l'acéité divine, ne peut donc être reconnue que dans la mesure où je m'accepte existentiellement comme créature. Elle est, elle aussi, une notion limite. Nous sommes ainsi ramenés à nouveau à l'idée de création. C'est elle qui exprime la tension entre l'existence d'un Dieu qui épuise en lui la réalité de l'être, et celle d'une réalité en dehors de Dieu qui a pourtant une consistance. Mais cette notion représente un seuil sur lequel la pensée philosophique laissée à elle-même n'a jamais réussi à se tenir. Gilson y a vu à juste titre une catégorie de la philosophie chrétienne, en tant que c'est seulement appuyé sur la révélation que la raison l'a énoncée correctement. Même ainsi d'ailleurs, elle reste mystérieuse. Elle est affirmée, mais non pleinement intelligible. Elle pose les deux termes, mais ne saisit pas comment ils peuvent coexister. Et cette inintelligibilité même est l'expression sur le plan de la pensée de sa réalité dans l'ordre de l'existence. Ce que nous disons de la difficulté fondamentale nous montre donc qu'elle est à la fois la manifestation de la valeur de la raison et des limites de la raison. Et que c'est précisément parce qu'elle est l'un et l'autre qu'elle est la manière correcte de poser philosophiquement la question de Dieu. Ceci vaut de la philosophie comme telle. Elle est tout entière un seuil. Elle oblige à poser Dieu et ne peut le connaître. Son acte suprême est ainsi de se mettre en question elle-même et de montrer par là que cette mise en question, qui est l'affirmation d'un au-delà de la raison, est une exigence de la raison. Ainsi, l'affirmation d'une révélation apparaîtra comme raisonnable. Un Dieu que la raison dominerait ne serait ni un Dieu personnel ni un Dieu transcendant. C'est en affirmant à la fois qu'il existe et qu'il la dépasse que la raison le connaît en tant que Dieu. Une connaissance de lui plus parfaite ne pourra être que sa libre initiative. Il est la subjectivité souveraine, la ténèbre où nul ne pénètre par effraction, mais qui se révèle quand et comme elle veut. Et c'est ce que nous appelons la révélation.